pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'agriculture industrielle ne produit que 30% de l'alimentation mondiale. Le reste, les deux tiers, donc, poussent ou sont élevés dans des petites exploitations familiales. Pourtant, les multinationales qui privatisent les semences et détruisent les variétés locales prétendent nourrir le monde. Il est donc urgent de désobéir au discours marketing ambiant. C'est un appel à la désobéissance créatrice que lance Vandana Shiva dans son dernier livre publié chez Actes Sud. Elle sera notre invitée tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La 12e édition du Forum international de la météo et du climat se déroule à Paris ce week-end. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi, des animations, des ateliers pratiques encadrés par des scientifiques et des débats participatifs ont lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Objectif, replacer le citoyen et la science au cœur du débat et comprendre les enjeux de l'évolution climatique pour mieux agir. De la pédagogie, nous en faisons toutes les semaines dans C'est pas du vent, notamment avec la chronique climat de Pierre Radane que vous retrouverez dans quelques minutes. Mais nous n'en faisons jamais trop sur un sujet aussi complexe qui nous concerne tous. Et ce n'est certainement pas vous qui allez me contredire. François Gourand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prévisionniste à Météo France et à ce titre, vous participez à ce forum. Alors, qu'est-ce que le public va y apprendre?
Le public va pouvoir y voir des choses assez variées, voir des animations, participer éventuellement à des débats ou assister à des projections de films également. Donc, il y a 6 pôles qui sont disposés sur ce forum. Un pôle échange, justement, pour ces débats et rencontres, un pôle innovation. Il y aura même des start-up qui vont proposer des solutions innovantes en lien avec les problématiques climatiques. Il y a aussi donc un pôle jeunesse sur lequel on pourra retrouver Météo France, notamment, où je suis présent ce samedi et ce dimanche. Et puis, il y a un pôle culture pour les projections de films, voilà, et un pôle agriculture aussi, où on pourra voir des méthodes de culture et également institutionnelles avec des représentants des ministères.
Voilà. Alors, pour la grande partie de nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'être à Paris, on va utiliser votre présence pour leur faire un petit peu partager ce forum. Et l'une des questions que l'on reçoit fréquemment par mail ou sur les réseaux sociaux, c'est quelle est la différence entre le climat et la météo ?
Alors effectivement, c'est une question très pertinente parce que la météo, j'ai envie de vous dire, c'est ce que nous vivons au quotidien tous les jours, tandis que le climat, c'est une tendance plus longue d'évolution qui n'est pas forcément perceptible et visible au quotidien. C'est un petit peu comme si on comparait dans une classe un élève, son évolution et l'ensemble de la classe, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la même chose. On peut avoir l'ensemble de la classe qui progresse tandis qu'un élève est en difficulté temporaire mais qui finalement est emporté par la progression de la classe. Et ben le climat, c'est un peu ça, c'est des soubresauts météo, des extrêmes chauds, froids, ça dépend des années, mais malgré tout, il y a une tendance d'ensemble qui, elle, évolue et entraîne, semble-t-il, maintenant c'est avéré, inexorablement, les événements météo eux-mêmes vers, en l'occurrence, une augmentation de température.
Alors, ce n'est pas évident de s'y retrouver parce que, par exemple, récemment, François Hollande s'est rendu aux Philippines pour alerter l'opinion internationale sur les conséquences des changements climatiques parce que ce pays est régulièrement touché par des typhons. Et quand le Vanuatu a été impacté par l'un des plus forts cyclones de son histoire le 13 mars dernier, là aussi, nous avons entendu comme cause les changements climatiques. Alors, vrai, faux?
Alors, disons que c'est toujours compliqué de relier un événement précis au changement climatique, sauf peut-être dans le cadre des vagues de chaleur, où là on peut être à peu près sûr que les vagues de chaleur des années récentes qui ont tendance à se multiplier, à devenir très importantes, comme en Russie il y a quelques années, on a vécu un événement sans précédent peut-être depuis 1000 ans, une très très longue vague de chaleur il y a quelques années, qui a concerné la Russie. Nous on a eu la canicule en 2003, on s'en souvient encore. Ce genre d'événement atypiques qui durent et qui sont d'une ampleur très importante sont probablement des signaux qui montrent que le changement climatique est déjà parmi nous. Ce sont des signaux qui risquent de se multiplier, les vagues de chaleur longues, à la fois en fréquence et surtout en durée. Donc le double effet va être vraiment important. Pour ce qui concerne les cyclones, c'est un petit peu différent. Les différentes études montrent que on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait davantage de cyclones dans le futur, en nombre, peut-être même que leur nombre diminuera. En revanche, quand il y en aura, il risque d'être plus pluvieux et les vents d'être plus forts, donc d'être plus destructeurs. Après, j'ai envie de vous dire, concernant le Vanuatu, il y a aussi un paramètre chance, ou en l'occurrence ici, absence de chance, qui fait qu'il était situé sur la trajectoire de ce cyclone particulièrement puissant. Donc on peut dire que ces cyclones très puissants s'inscrivent peut-être traduisent peut-être la réalité du changement climatique, mais on ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'ils se multiplient dans des proportions peut-être, jamais vues. Par contre, les événements intenses, eux, sont à surveiller parce qu'ils vont risquer de devenir un peu plus intenses. Voilà.
Voilà. Donc, il y en aura peut-être pas plus. Ça, voilà. Ça nous rassure d'un côté, voilà. Mais quand il y en aura, ils seront plus violents. Ça nous rassure moins.
Donc, il y a des enjeux de prévision très importants derrière ces cyclones, évidemment, parce qu'on peut pas faire grand chose une fois que le cyclone est là. Mais en revanche, on peut, évidemment, au moins sécuriser les gens en prévenant à l'avance de l'arrivée du cyclone.
Voilà. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs l'adaptation au changement. Voilà, climatique, la prévention en fait partie. Alors, au niveau des pluies, est-ce que l'on sait s'il va y avoir des évolutions fortes? Je sais qu'en Afrique, quand on va, par exemple, nous voir les paysans, ils nous disent, mais on comprend plus trop, avant il pleuvait de telle date à telle date, c'était précis, maintenant il pleut beaucoup d'un coup, puis ça s'arrête, puis ça recommence.
Effectivement, les recherches semblent indiquer qu'il va y avoir une augmentation de ces contrastes entre les saisons sèches et les saisons humides, notamment dans les pays tropicaux. Donc, malheureusement, c'est plus difficile à gérer. En tout cas, ça demande là aussi une adaptation, c'est-à-dire que il risque de pleuvoir davantage peut-être pendant la saison humide et au contraire la sécheresse d'être plus marquée encore pendant la saison sèche. Donc des contrastes saisonniers plus marqués. Mais cette évolution, effectivement, on pourrait la constater en Afrique, on peut-être la constate déjà effectivement par endroits, mais c'est aussi éventuellement valable pour les continents des moyennes latitudes.
C'est-à-dire en France, par exemple.
Oui, concrètement en France, les pluies intenses risquent peut-être de devenir un peu plus intenses également. Pas forcément là encore plus nombreuses, vous savez, les pluies en Méditerranée notamment, dont on a beaucoup parlé. Mais attention à ce caractère un peu plus extrême, éventuellement des phénomènes intenses.
Et là, vous allez faire beaucoup de pédagogie durant tout ce week-end. Vous allez par exemple expliquer comment on fait les prévisions météo.
Oui.
Alors, on va vous poser la question. Comment ça se passe les prévisions météo?
Alors les prévisions météo, on utilise ce qu'on appelle des logiciels, des modèles météorologiques de prévision, c'est-à-dire c'est des gros logiciels dans lesquels on rentre énormément de données météo d'observation mesurées par les satellites, par les stations météo qui sont implantées au sol, donc des températures, des pressions, des valeurs de vent, et tous ces logiciels donc concentrent toutes ces informations et à partir des lois de l'évolution de l'atmosphère que l'on connaît, calculent l'état futur de ce système Terre représentée dans le logiciel au bout d'une heure, deux heures, trois heures et ainsi de suite, et nous produisent donc des cartes d'évolution de l'atmosphère que ensuite nous prévisionnistes interprétons pour le traduire de manière compréhensible pour le public, parce que on peut pas, évidemment c'est des paramètres météo qu'on agrège et on en tire quelque chose de compréhensible médiatiquement notamment.
Alors, ça sous-entend d'avoir des collecteurs de données. Par exemple en Afrique, cette actualité météo, cette information météorologique est très précieuse, mais pour l'instant il y a un déficit de collecteurs de données.
C'est vrai, les stations de mesure ne sont pas assez nombreuses dans certaines régions en Afrique notamment. Heureusement pour nous, j'ai envie de vous dire, les satellites de plus en plus nombreux et de plus en plus perfectionnés arrivent à pallier sur les zones qui sont mal pourvues en données météo d'observation au sol, de mieux en mieux à cette absence de données. Donc on arrive à tirer des informations à partir des satellites, mais ça n'a pas encore la fiabilité de mesure vraiment au sol. Donc c'est aussi une question de moyens et après de maintenance, enfin tout ce qui va avec toutes ces problématiques. Mais on a tout à fait intérêt à développer le réseau d'observation de stations météo pour avoir aussi une meilleure prévision du temps.
Et on le rappelle brièvement, la météo impacte énormément d'activités économiques. C'est pas juste pour savoir si on fait un barbecue ou pas.
Oui, tout à fait. Ça impacte les activités énergétiques, la logistique, enfin énormément de choses, l'agriculture, bien sûr, avec des différentes échelles de temps. Mais bien sûr, ça intervient dans de très nombreux domaines.
Voilà, donc c'est pas uniquement pour se faire plaisir, savoir si on va à la plage ou pas, pour savoir que, il y a des grands enjeux.
Et, oui, à tout niveau, touristiques en font partie, mais pas seulement, en effet.
Merci François Gourand. On peut donc vous retrouver ce week-end sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.
Et oui, tout à fait, j'y vais en sortant jusqu'à 18h ce week-end.
Voilà, et le 12e forum de la météo et du climat, c'est jusqu'à mardi prochain.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. we take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant damage.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
Le parc national de la Pendjari est le dernier sanctuaire de la faune sauvage en Afrique de l'Ouest. Situé dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, il abrite la plus grande population d'éléphants de la région, ainsi que des espèces menacées telles que le buffle, le lion, le guépard, la hyène et des milliers d'antilopes. Mais depuis quelque temps, toute cette faune est fortement menacée. Bonjour José Adosu Bodjrenou.
Bonjour madame.
Vous êtes le responsable de l'ONG Nature Tropicale qui travaille avec l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, au Bénin. Alors que se passe-t-il actuellement dans la réserve de la Pendjari?
Depuis un certain temps, il est noté quelques problèmes au niveau de la réserve de la Pendjari, surtout dû au fait qu'on a enregistré quelques cas d'animaux retrouvés morts, surtout dans la zone visitée par les touristes. Et selon les enquêtes, c'est que depuis le mois de décembre, c'est-à-dire vers la fin du mois de décembre, vers les 30-31, il y a eu un conflit entre les autorités locales et l'association villageoise de gestion des réserves de faune, ce qu'on appelle AVIGREF. Et ces associations ont été suspendues sur toutes les activités de surveillance du parc. Et ça veut dire que depuis un certain temps, on constate que le parc est sans surveillance. Et cela inquiète beaucoup.
Donc ça veut dire qu'il y a une recrudescence du braconnage. Quels sont les risques aujourd'hui?
Oui, et il y a une recrudescence, on dirait, parce que dans le cadre de nos activités, dans le réseau Eagle, c'est que nous luttons contre les trafics de faune, d'ivoire et autres. Nous avons enregistré que dans cette zone, il y a beaucoup d'offres de ces produits et ça veut dire que s'il y a plus de surveillance, c'est que ça deviendra beaucoup plus inquiétant pour ces animaux qui constituent les derniers réservoirs au niveau de la sous-région.
Et quelles sont les mesures à prendre d'urgence? En fait, vous en appelez au gouvernement du Bénin pour qu'il s'occupe du problème?
Oui, les mesures urgentes à prendre, c'est que au niveau du ministère, il faut lancer un dialogue avec ces communautés, à la base, ces associations qui ont fait leurs preuves. On ne peut pas dire que tout est totalement parfait, mais ces associations ont fait les preuves. Et notre appel à notre gouvernement, c'est de voir comment faire la médiation avec ces communautés à la base, parce que je ne crois pas que l'État pourra déployer pour longtemps, parce que nous avons appris qu'il y a quelques jours, les dispositions étaient prises pour envoyer des militaires pour faire la surveillance. Mais pour combien de temps?
Oui, il y a urgence à agir. Merci beaucoup José Adosu Bodjrenou. Et bien sûr, vous nous tenez au courant. Et c'est maintenant l'heure de la chronique climat de Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Hadan.
Bonjour.
195 pays sont membres de la Convention des Nations Unies sur le climat, avec des niveaux de développement et des approches très différentes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au groupe des pays développés. Quelles sont leurs différentes positions par rapport au changement climatique?
Alors les pays développés ont des positions différentes entre eux, et même divergentes depuis 20 ans. À cette différence, trois facteurs. Le premier, les politiques énergétiques. Les pays qui ont beaucoup de charbon, de pétrole et de gaz ont de fortes résistances internes, je dirais les lobbies, les activités industrielles qui vivent de ces occupations. De l'autre côté, les pays qui n'ont pas ou plus de combustibles fossiles sur leur sol, se trouvent aujourd'hui de plus en plus dépendants d'importations. Donc ils ont tendance à vouloir économiser l'énergie et à développer leurs énergies renouvelables. Deuxième facteur de différence, la densité de population. Plus un pays à une population dense, plus il va se retrouver dans la situation d'être obligé de prendre en compte l'intérêt général au-delà de l'individualisme. Et à l'inverse, moins la population est dense, plus les ressources en matière première par personne sont importantes. Tout cela indique des conceptions de développement différentes. Les pays qui ont des populations moins importantes sont moins sensibles à la pression sur les ressources et puis aux inconvénients sur l'environnement. Troisième facteur, la vulnérabilité. Alors, parmi les pays industrialisés vulnérables, il y a des pays très très différents. L'Australie est très vulnérable. Les pays méditerranéens le sont. Les États-Unis le sont. Donc ça marque aussi des différences.
Alors du coup, ça débouche sur deux grandes catégories de pays, on peut dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait. Il y a d'un côté les pays vides, les moins peuplés, donc ceux qui ont le plus de ressources aussi. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Russie. On n'a pas l'habitude de les mettre dans le même paquet politiquement. De l'autre côté, les pays pleins, c'est-à-dire beaucoup plus de population, beaucoup plus dense, l'Union européenne essentiellement et le Japon.
Alors quelles sont les conséquences du coup pour la conférence de Paris de ces catégories ?
Bien évidemment, les pays que je qualifiais de pleins sont plus actifs sur le changement climatique. Notamment, pour la préparation de la conférence de Paris, ils veulent avoir un accord, que cet accord soit suivi et respecté par tout le monde, alors que les pays qui sont moins engagés, pour qui cette question du changement climatique est moins bien comprise, puisqu'encore une fois, ils ont beaucoup de ressources, ils ont un environnement abondant, donc ils ne se sentent pas contraints. Ces pays-là, ils veulent bien faire aller vers un accord, mais à condition que ce soit volontaire, à condition qu'il n'y ait pas de règles contraignantes, que chacun fasse un petit peu à sa façon.
Alors, est-ce qu'il y a un peu les mêmes catégories du côté des pays émergents ?
Oui, alors on retrouve, je dirais, le même découpage. La Chine et l'Inde, bien évidemment, sont dans des situations proches de l'Union européenne et du Japon.
Pourtant, ce sont des pays vastes.
Oui, mais ils ont des densités de population très importantes sur leur territoire, notamment, par exemple, sur toute la rive pacifique pour la Chine. Bon. En même temps, ils n'ont pas énormément de matières premières. Donc, ils sont obligés d'aller les chercher à l'extérieur. Et puis, ils ont des énormes difficultés sociales avec des populations innombrables. Et donc, bien évidemment, cette question de l'efficacité énergétique et du réchauffement climatique, de la pollution urbaine, c'est une question très, très importante pour eux. À l'inverse, l'Afrique du Sud ou le Brésil sont beaucoup plus dans une situation qui ressemble aux États-Unis. Ils ont d'abondantes ressources en matières premières, ils ont des espaces considérables, et donc leur appropriation est plus semblable aux pays vides.
Et donc ces conceptions, j'imagine, auront des incidences différentes pour les futurs de ces pays ?
Oui, alors, ces pays ont des situations très différentes. Les pays qui ont beaucoup de matières premières sont aujourd'hui extrêmement favorisés dans l'économie d'aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que les prix des matières premières et de l'énergie sont globalement élevés. Donc, ils ont un avantage économique par rapport aux autres en ce moment. À l'inverse, les pays denses, puisqu'ils économisent l'énergie, puisqu'ils prennent en charge le changement climatique, eh bien, quelque part, ils vont être moins contraints dans le futur. Et donc, on se retrouve dans la situation où, à long terme, les stratégies de l'Union européenne et du Japon sont probablement les stratégies bénéfiques pour l'humanité. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas d'autres planètes habitables dans le coin.
Merci Pierre Hadan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radane vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Restez avec nous sur RFI juste après le flash d'info. Nous serons avec l'altermondialiste indienne Vandana Shiva qui lance un appel à la désobéissance créatrice. À tout de suite.